Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
23h18 et vous êtes sur votre radio sur Europe 1 et c'est la Libre Antenne qui vous accompagne en direct jusqu'à 1h du matin. Nous accueillons maintenant Karine au 3921. Bonjour Karine, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Je suis très contente de vous avoir au téléphone, je vous écoute tous les soirs. Puis c'est vraiment extraordinaire comment vous parlez aux gens et comment vous développez les histoires, comment on peut comprendre un petit peu les problèmes. En fait, j'aimerais bien être à votre place, parler comme ça, franchement.
Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie.
Voilà, alors, j'ai commencé l'histoire en essayant de faire court.
Non, non, mais prenez votre temps.
D'accord, très bien. Bon, ben, j'ai été mariée pendant 30 ans, on va faire bref. J'ai divorcé parce que mon mari est parti avec la voisine. Bon. Et puis, je me suis retrouvée en location en France, dans un appartement. Et au bout d'un certain temps, tout le monde me disait, faut acheter. Bon, voilà, j'ai acheté. J'ai peut-être pas bien acheté, mais bon, j'ai acheté comme il fallait pas du tout. C'est-à-dire rez-de-chaussée, à l'est, voilà. Tout ce qu'il fallait pas, je l'ai fait. Enfin, je me disais, c'était pour louer, mais pour finir, j'y suis allée habiter. Alors, j'y habite depuis un mois. Bon. Et donc, il y avait tous les meubles, il y avait le frigo, la machine à laver. Et en habitant dans cet appartement depuis le nouvel an, je découvre que le frigo tombe en panne, je tire le frigo. J'étais écœurée, il y avait plein de cafards au-dessus du frigo, j'en avais jamais vu de ma vie. Bon, j'enlève le lave-vaisselle, je passe encore les détails, il avait failli faire une inondation parce qu'il avait brûlé le tuyau derrière. Enfin bon, en un mois, c'est vraiment toutes les histoires qui m'arrivent. Et je m'en vais donc chez Darty commander le frigo, la machine à laver, un lundi. Et puis, deux jours après, je réfléchis. Je ne suis pas persuadée que c'est le bon frigo que j'ai acheté parce que c'est une cuisine encastrable. Donc, le frigo, j'avais deux modèles et je me dis, c'est pas terrible les deux modèles, enfin, le modèle que j'ai choisi. Il ne fait pas le no frost. Enfin, voilà, j'ai pris un cours de frigo. Je ne connaissais rien.
D'accord.
Mais bon, j'ai pris un cours de frigo. Et donc, deux jours après, je suis là-bas à nouveau, mercredi, à 6h. Et je retombe sur la même personne qui était là le lundi. Il y avait une femme seule qui, elle m'avait entendu parler tout haut parce que j'étais avec ma mère. Et puis, voilà, elle me dit, tiens, je croyais vous connaître votre voix. Moi, je réponds, on ne se connaît pas. Normalement, on a chacun une voix unique. Donc, non, c'est bizarre que vous reconnaissiez ma voix. Et puis, elle me trouvait rigolote, certainement, parce que moi... comme il n'y avait pas personne, hein, dans les grandes surfaces, c'est comme ça. J'y étais de 2h de l'après-midi jusqu'à 5h. Je n'avais toujours pas acheté mon frigo.
D'accord.
En faisant un aller-retour à la maison pour prendre une photo des fermetures. Enfin bon, voilà. Je reviens à 3h avec ma mère, toujours. Et voilà, personne pour nous servir. Enfin bon, j'ai fini par m'énerver et dire que c'était comme ça que j'allais commander sur Internet. Parce que je ne comprenais pas qu'ils soient sur des tablettes style Apple à commander des frigos avec les gens alors qu'on était dans un magasin d'électroménager. Vous voyez le style de réflexion.
Il faut se méfier. Donc, en plus, commander de l'électroménager comme ça lorsqu'on ne l'a pas vu en vrai, moi je suis pas très fan de l'histoire parce que on sait jamais vraiment. Vaut mieux aller le voir en vrai, le frigo.
Oui, mais Olivier, le plus amusant, c'est que vous êtes dans un magasin d'électroménager.
Oui.
Donc, vous êtes censé être conseiller, sauf qu'il n'y a personne pour vous renseigner. Donc, vous vous retrouvez dans des frigos, devant des frigos, des machines à laver. Arrive enfin quelqu'un, quand vous avez bien pleuré pour avoir quelqu'un, qui vous dit « je n'y connais rien en frigo ». Bon, ça commence bien. Ils ont une tablette avec eux, comme si on était chez Apple, et ils vous mettent devant un écran pour acheter des frigos. Alors, moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller dans un magasin d'électroménager pour acheter sur Internet un frigo.
Non, ça n'a aucun intérêt.
Bon, voilà.
À part si vous aimez, comme certaines personnes que je connais, passer du temps dans les grandes surfaces, parce que vous savez que c'est un réel plaisir pour certaines personnes de dévoler dans les grandes surfaces.
Je ne comprends pas ça. Bah, il n'y a personne.
Bah, non, il y a vraiment des gens qui aiment passer du temps, flâner, observer les gens, et puis faire leurs emplettes, et qui passent 2-3 heures au supermarché.
D'accord. Oui. Enfin, des fois, il se passe des choses très marrantes. Hein. Voilà. Bah, enfin, bon.
C'est... Moi, je comprends qu'on puisse aimer ça parce que le supermarché, il réunit toute la société, en fait, parce que tout le monde
tout
va...
Tout
le monde va... Aujourd'hui, je suis originaire d'une ville en Normandie qui s'appelle Évreux. Aujourd'hui le supermarché dont je ne citerai pas la marque, mais en fait, c'est un mall, comme aux États-Unis pratiquement. C'est-à-dire que vous avez ce supermarché, mais tout autour, vous avez tout un tas de magasins qui fait que vous avez tout dans un espace. Donc voilà, moi j'ai hors de ça, mais je sais que voilà, aujourd'hui c'est devenu le on fait le shopping du samedi et on reste 2-3 heures.
Mais
oui.
En famille. Mm-hmm. Et on mange dans des marques.
Il y a tout,
Il
y a tout, exactement.
Donc le mercredi, je retourne là-bas parce que j'avais un doute par rapport à la cuisine encastrée. Le frigo qui devait être encastré dans la cuisine et que je n'allais pas avoir un super frigo. Et je tombe sur la même personne à 6 heures du soir.
Oui.
Bizarre, la vie, hein, des fois.
Oui, oui, carrément.
Et donc, elle me dit comme ça, j'ai pensé à vous. Je dis, ah bon ? Oui, vous n'avez pas pris la bonne marque de frigo, vous n'avez que deux choix. C'est pas terrible, ça ne fait pas nos frost et tout. Je dis, oui, j'y ai pensé. Donc, je me dis, bon, bah, j'ai plus qu'à casser le coffre de la cuisine ou le frigo et prendre un frigo qui me fasse plaisir, bien. Alors, je recommande mon frigo et puis après, je repars à... Ah, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le mercredi, elle n'était pas toute seule, elle était avec son fils. Oui. Elle me présente, qui a 12 ans, qui est sympa, marrant, drôle, protecteur avec nous deux, femme seule, qui regarde tout avec son téléphone, il nous conseille les marques, les prix, enfin les vitesses, enfin bon, tout ce qu'on veut. Et donc, voilà. Et on prend, on sort du magasin. On veut prendre le tram est en panne, donc on est sur un banc, puis on discute, et voilà, je trouve très sympa, elle aussi, mais un peu plus difficile à comprendre quand elle parle, mais un petit accent, et lui, assez passionnant, en fait.
Le petit
après,
12 ans Le petit 12 ans,
le petit 12 ans oui. Oui, très bien. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé ce gamin. Mm-hmm. Il est intéressant, volubile, curieux... protecteur avec sa maman, du coup il était protecteur avec moi aussi.
Mmh. Alors, Karine, je vous arrête quelques temps, là, juste le temps de faire une petite pause et puis je vous retrouve tout de suite, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h27, vous êtes sur votre libre antenne sur Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Nous sommes avec Karine. Karine, on était donc dans ces histoires de frigo, hein, où vous avez fait la connaissance d'une personne qui était là pour vous conseiller. Puis, bon an, mal an, vous avez fait la connaissance aussi de son fils lors de la troisième fois où vous revenez. Et vous voilà tous les trois donc, réunis à être dans le tramway ou dans le bus, c'est ça ?
Dans le tramway, oui, tout à fait.
Oui.
Qui est un peu en retard, bon, et puis on le prend et ils repartaient chez eux dans le nord de la ville. Et moi, je restais dans le coin, c'était pas très loin de chez moi.
Oui.
Et puis, bon, je sais pas si je vais partir dans des détails qui n'ont pas beaucoup d'importance, je pense pas. Mais par la suite, la maman m'a passé un coup de fil le lendemain, on s'est un petit peu rencontrés. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. Elle me disait qu'elle était seule dans le pays. Et puis, petit à petit, ben, elle s'est confiée. Hein.
Oui.
Elle s'est confiée que, voilà, elle avait été mariée et puis qu'elle avait eu un petit garçon, donc Eddie.
Eddie ?
Et donc, non, je me suis trompée, là. Enfin, bon. Et puis, donc, elle avait eu un bébé, en fait. Et après, elles étaient séparées. Et puis, c'était une maman, une femme battue.
Mm-hmm.
Et donc, elle ne vivait plus avec le père. Et donc, le père avait été condamné. Il avait fait 3 mois de prison et puis elle, je l'ai trouvée quand même, puisque j'ai eu l'occasion d'aller chez elle. Elle avait mis l'acétaminerve, elle avait mis très mal à la tête, des problèmes cervicales, des problèmes de dos, elle ne peut plus travailler.
Suite au coup qu'elle avait reçu ?
Oui. Donc elle a une pension d'invalidité et puis elle ne peut pas travailler donc. Et elle ne peut pas faire le ménage. Elle est très lente parce qu'elle m'avait invitée pour aller manger. Et j'ai cru que ça allait être impossible parce qu'elle m'avait donné rendez-vous à midi. J'ai mangé à 4 heures de l'après-midi tellement elle ne pouvait pas faire à manger. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je disais, donne-moi au moins du pain, quelque chose. Je commence à avoir faim. Mm-hmm. Elle s'excusait, elle n'arrivait pas à faire à manger. Et le petit, je me suis rendu compte que bah, il était en colère. Il criait, il pleurait, il était énervé. Puis sa mère était complètement à côté de la plaque. Il y avait un problème de comportement, tous les deux, en fait. Et quand j'écoutais hier ce qu'elle racontait, Lucie, c'est ça. La mère qui a perdu sa personnalité, enfin, c'est vraiment perte de confiance en elle, qui est incapable de travailler, qui s'excuse tout le temps, qui a peur.
Alors, Lucie, elle... qui nous a appelé hier, oui. Pour ceux qui... Elle n'était pas là hier soir, est une jeune femme hein, de 35 ans, 35, 38 ans, qui en fait nous a conté hier soir qu'elle avait subi elle aussi des violences. Elle avait un enfant de 5 ans à l'époque et un bébé de 2 mois et qu'elle avait subi des violences de la part de son ex-mari et qu'elle était sortie totalement épuisée de cette histoire puisqu'elle s'était retrouvée dans un CHR. Donc, oui, ces foyers qui sont, ces maisons qui sont des accueils d'urgence pour les personnes qui n'ont plus de toit et les femmes comme Lucie et comme cette personne dont vous me parlez peuvent voilà, être accueillies avec leurs enfants. Mais c'est une chance et elle évoquait, comme vous le disiez très bien Karine, elle évoquait ce moment de sa vie où elle s'est retrouvée totalement à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus d'énergie, elle était rincée, en fait.
C'est ça.
C'est cette impression elle... que vous avez eue de...
Oui,
quand
moi,
vous avez...
moi j'ai l'impression que c'est le petit qui est en colère et qui veut décider, et elle ne veut rien faire, elle croit en plus rien. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand il parle de la pension alimentaire que le père n'a pas payée pendant un an, de rien du tout, hein, 60 euros par mois, hein, par exemple,
oui.
Le petit dit faut porter plainte. Elle dit non, ça ne sert à rien. De toute façon, on n'aura pas. Elle est défaitiste. Elle est... Non, c'est très compliqué. Hein. Ça serait une autre mère. Mais elle ne faut pas lui en vouloir. Hein. Elle est comme Lucie, complètement négative.
Lucie, ça va beaucoup mieux. Hein. Vous l'avez entendu hier soir, Karine.
Oui,
elle a remonté la pente.
Tout à fait.
Est-ce que cette femme a quel âge, là, à votre
avis ? Elle doit avoir 50 ans.
D'accord, 50 ans. Et elle vous a raconté son histoire dans les détails ou elle a survolé
absolument,
les choses ?
Absolument, ça a été très... Non, dans les détails, ça a été très vite. J'ai même vu les papiers. Hein.
Oui.
Ah oui.
Elle est séparée combien de temps de cet homme ?
Elle est séparée depuis 7 ans et elle n'est pas remise. Le petit, quand il était bébé, quand il est né, il a été frappé.
Oui.
Et après, maintenant, il a 12 ans, il raconte exactement en détail comment le père le frappe devant tout le monde. Comment il lui tire la joue, comment il l'humilie, comment il lui tape dans le dos, comment il lui casse la tête. C'est terrible, hein, vous savez.
C'est-à-dire
c'est vraiment
que ce...
comment il lui tape dessus.
D'accord, ce
comment
garçon lui... va chez son père combien de fois
Voilà. Alors normalement, il doit y aller 2 fois par mois.
Oui.
Mais à chaque fois, il raconte le gamin que le père ne lui donne pas à manger, par exemple, de toute la journée.
Oui.
Voilà. Ou alors il fait des courses et puis il met dans le frigo, puis il donne rien au gamin. Puis alors, le petit, s'il pleure, il est devant la télé, qu'il demande un dessin animé, ça y est, il commence à le cogner. Il le cogne beaucoup avec le coup de poing. Ou alors, il lui tape sur la tête, ou par derrière, enfin, vous voyez. Et il le fait aussi devant tout le monde dans la rue. Et personne ne bouge. Alors, il se plaint énormément d'avoir mal aux genoux.
Oui.
Parce qu'il y a des preuves. Hein. Il a mal au dos aussi. Et puis, il est en colère, c'est vrai.
Mais c'est normal,
et puis, il raconte vraiment en détail.
C'est normal.
Il raconte vraiment en détail, quand ça lui arrive, que le père est illuminé devant le vigile dans un supermarché, que personne ne bouge. Voilà, il a envie de le fracasser. Alors, il lui dit, il a quand même 12 ans, il lui dit au père qu'il lui a volé sa jeunesse, qu'il n'a pas eu d'enfance, qu'il lui a bousillé sa vie, qu'il ne lui pardonnera jamais. Ouais, c'est incroyable.
Ouais.
C'est vraiment
Il est très mûr, cet enfant.
L'enfant est très, très mûr et très intéressant.
Ouais.
Il veut protéger sa maman. Et là, il n'y a pas longtemps, il a fait un malaise à l'école. Alors, la maman, elle me dit, elle était avec moi, elle me dit, je suis inquiète, il faut que je rentre. Je veux savoir ce qui s'est passé. Après, elle me dit, ils ont eu un petit goûter entre amis à l'école. Donc, il n'a pas supporté le sucre, il n'est pas habitué. Alors du coup, je rappelle le petit et puis il me dit « Non, c'est pas le sucre, je pense que je manque de fer. » Ben, je dis « Non, t'es pas une femme, t'as pas l'âge de manquer de fer, dis-moi la vérité. » Il regarde que sa mère, elle soit dans la salle de bain et puis Et puis il me dit, non, non, j'ai fait un malaise. J'ai peur. Je dis, t'as peur. Et puis donc, il attend un procès. Il attend un procès, il a peur que sa maman aille en prison et qu'il aille chez son père.
C'est-à-dire, alors, il attend un procès de quoi ?
Alors là, j'ai un peu de mal à comprendre cette histoire parce que j'ai pensé à vous. Entre l'autre jour, vous avez dit que les mères qui ne présentent pas les enfants au père en France ne risquent pas grand-chose, d'accord ?
C'est vrai.
Et là, elle, elle a perdu un procès. Parce qu'elle n'a pas présenté l'enfant, parce que l'enfant ne veut pas y aller, parce qu'il est frappé, d'accord ?
D'accord.
Et même j'ai appris qu'il a été violé, hein, dans des détails, il n'y a pas longtemps.
Par
le père. Par le père. Dans la baignoire, il les touche. Le père, oui, c'est de l'inceste avec le petit. Et j'ai été la première personne, il l'a avoué il y a exactement une semaine. Il n'avait jamais osé le dire. Donc il ne veut pas y aller, le juge ne veut pas l'entendre. Donc la maman, la dernière fois, elle ne l'a pas présentée. Donc elle est condamnée à payer une amende quand même élevée par rapport à ce qu'elle gagne, c'est-à-dire pas grand-chose, 2 700 euros. Et alors elle est condamnée à ça. Et puis bon, voilà, certainement, elle doit aller en prison. C'est
elle vous a montré les papiers de tout ça, en fait,
oui,
Karine ?
Oui, j'ai vu tous les papiers.
D'accord. Et donc, vous rappelez à peu près... Si elle était condamnée à de la de la prison ferme ou de la prison
avec
sursis.
Alors attendez, j'ai noté parce que là c'est important, c'est vrai. J'ose pas trop dire les dates, mais je sais qu'en avril il y a eu une convocation le jour de l'anniversaire du petit.
Oui.
C'était une histoire de police judiciaire. Il devait passer devant le procureur et le chef de la police judiciaire. Il a décidé d'aller au tribunal pour prouver en pénal. Enfin, je sais pas. C'est compliqué parce qu'elle veut me montrer les papiers, mais en même temps, elle ne veut pas me les montrer. Et le petit parle comme un grand de pénal, de cour de cassation, d'appel. C'est inimaginable, le petit.
En même temps, donc, ça n'est pas bien qu'un enfant de 12 ans soit baigne là-dedans. Vous voyez,
vous savez que je crois que le reste n'est pas terrible non plus. Hein.
Ce que je veux dire, c'est que cet enfant, qu'il sache déjà cours d'appel, cours de cassation, vous rendez compte, à 12 ans.
Il est très intelligent, il fait des recherches tout seul sur Internet.
Oui, mais bon, je pense qu'à 12 ans, on peut avoir d'autres centres d'intérêt, c'est ce que je veux vous dire.
Il n'a pas une jeunesse.
Non, mais il est... j'entends complètement, hein, Karine, je le dis pour lui, ça, je trouve que c'est... C'est triste, en fait, c'est triste. Mais vous allez me raconter la suite et on va voir, aller au bout.
Alors donc, il y a cette histoire d'avril. Alors moi, ce que je ne comprends pas, ce qui est bizarre quand même, c'est que lui, il a fait de la prison pendant 3 mois pour coups et blessures sur la mer. Bon, on le remet dans la nature et là, normalement, il ne doit pas approcher le petit autour de l'école, il y va. Les profs ne disent rien, il est gentil avec tout le monde. Et le petit, il dit à l'école, je croyais être protégé. Et il s'avère que personne ne fait rien. En fait, il est en colère contre tout le monde.
Oui, je comprends.
Il est en colère déjà contre les profs.
Personne ne l'écoute,
il va voir
petit.
Le juge. Oui, il dit que il dit comme ça, les gens ils disent que je fais de la poésie. Voilà, il parle comme ça.
Oui, oui.
Le juge, il l'a vu 3 fois en disant qu'il ne voulait pas y aller. Pareil, on ne l'écoute pas. Donc il est en colère contre les profs, contre les juges, contre la police qui ne veut pas l'écouter non plus. Et les avocats, comme sa mère elle a changé plusieurs fois, ils ne croient plus à rien. Mais réellement à rien.
Quelqu'un s'occupe d'elle ? Elle a un avocat en ce moment ?
Elle a changé plusieurs fois.
Oui.
Et donc là, elle doit payer. Elle a dû demander de l'argent à son frère. Elle ne peut pas payer.
Mm-hmm.
C'est inimaginable. Il a fait de la tôle. Maintenant, il ne paye pas la pension alimentaire. 60 euros sur un an. Et elle doit payer pour eux. Pour intérêt.
C'est parce qu'elle elle n'a pas voulu porter plainte. Donc,
c'est ça le problème.
Même 60 euros, si quelqu'un ne paye pas, enfin, en tout cas un homme ou une femme, hein, parce que je ne suis pas là pour défendre plus les femmes que les hommes, mais quelqu'un qui, normalement, l'un des deux parents qui doit payer une pension alimentaire, même si elle est de 60 euros, s'il ne la paye pas, bien évidemment, la justice ne va pas le deviner. Il faut que cette maman... pour te plaindre contre ça. Donc, si vous voulez, si elle a eu une attitude comme ça, d'avoir peur de cet homme, de ne pas avoir osé, ce que je comprends très bien, parce que elle est sans doute encore dans la peur de cet homme qui est sans
elle
doute...
Elle a peur, oui.
Oui, bah oui. Ouais.
Oui. Alors, effectivement, elle n'a pas porté plainte parce qu'elle pense que les flics ne vont rien faire, que ça ne sert à rien, que de toute façon, ils vont penser qu'elle va, elle fait ça parce qu'elle cherche l'argent. Vous voyez, c'est comme ça que ça parle. Elle cherche l'argent. Donc, elle ne veut pas passer pour quelqu'un de vénal.
Mais ça, ça, c'est elle qui vous dit ça parce que,
oui.
Parce que, vous savez, encore une fois, il faut remettre les choses à leur place. La police, elle est faite pour protéger les citoyens. Et il y a tout un tas de personnes dans un commissariat. La grande majorité, enfin 99%. Mais il y a des policiers qui savent faire leur travail. Donc, pourquoi c'est elle qui interprète ça comme ça, qui dit que les policiers vont penser d'elle qu'elle veut de l'argent, qu'elle veut gagner de l'argent
dans... Bien sûr.
Bah oui.
Elle raisonne mal.
Et ça s'appelle... Bien sûr. Voilà, elle raisonne mal. D'accord. D'accord.
Je lui dis, et le petit lui dit.
Et elle ne
le
veut
petit,
rien entendre.
Le petit, de 12 ans, et non.
Oui.
C'est ça qui est terrible, parce que le petit lui dit qu'il faut porter plainte. Tu as tort, il faut faire comme si.
Oui. Alors il est en colère. Oui. Il est en colère.
Il est en colère, oui, tout à fait. Avec l'attitude de sa mère, il est en colère avec tout le monde, en fait. Il se dit que personne ne va l'aider. Donc, il a eu ce malaise à l'école. Après, il ne dort pas la nuit ou alors il fait des cauchemars. Puis, il ne mange pas. Alors, j'ai dit, il faut manger parce que tu ne vas pas grandir. Hein. Et puis, maintenant, il a de plus en plus de mauvaises notes à l'école. Mm-hmm. Il va certainement redoubler alors qu'il est intelligent. Il a voulu se suicider aussi. Mm. Alors, il a fait plusieurs tentatives de suicide.
Karine, on va continuer à parler de la situation de ce garçon. Et puis, évoquer aussi votre... position dans tout ça qui peut s'avérer être importante et même déterminante. Mais on en parle juste après la pause, si
d'accord.
Vous voulez bien. À tout de suite.
D'accord. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
23h43, vous êtes sur Europe 1, cette radio qui écoute le monde changer et qui vous écoute aussi tous les soirs en direct jusqu'à 1h du matin. Appelez-nous, continuez à nous appeler au 3921 pour évoquer votre vie, partager votre quotidien avec nous, nous éclairer sur votre vie et puis peut-être éclairer une situation que vous vivez difficilement. Comme Karine qui nous parle ce soir de ce garçon de 12 ans, de cet enfant de 12 ans qui est très en colère et que visiblement personne n'écoute. Une maman qui est dépassée par les événements, hein, Karine, qui semble subir, pardonnez-moi, subir tout en fait.
En fait, Eddie disait à sa maman de porter plainte. Elle ne voulait pas car elle n'y croyait pas. Elle pense qu'il y a de l'injustice pour tout, tout le monde est nul. Elle change tout le temps d'avocat.
Mais elle est sans doute un peu en dépression, cette femme, non ?
Ah, complètement.
Ah oui.
Complètement. Mm-hmm. Je sais pas ce qu'elle fait de ses journées, mais bon, c'est bizarre, hein, vraiment.
Le souci, je vais vous dire, Karina, c'est que dans cette histoire, votre rôle, hein, votre mission presque, parce que vous avez fait la connaissance de cette femme, c'est presque envers elle qu'il va falloir agir, parce que malheureusement, si vous évoquez avec... je ne sais pas si vous faites un signalement, vous voyez, si vous évoquez
elle
la situation...
Pas.
Mais oui, parce que, en fait, le risque pour Eddie aujourd'hui, c'est que l'on s'aperçoive que ces choses qu'il vit chez son père, ces violences qu'il vit chez son père, ces attouchements dont vous parlez,
oui.
Eh bien, on risque de le placer, Eddie. Et puis,
oui.
Il va se retrouver complètement largué dans une famille d'accueil. Et vu comme vous me parlez de cet enfant, je crois qu'il n'a pas du tout le profil pour se retrouver dans une famille d'accueil, même si... il y a plein de familles d'accueil qui sont formidables, mais pour ça...
Il est révolté.
Ben oui.
Ouais.
Comment vous voyez la chose, vous ? Parce que vous avez l'air très, très lucide par rapport à tout ça. Dites-moi comment vous voyez la chose.
Moi, j'ai un petit garçon qui protège sa maman, qui est inquiet pour elle. Et elle, qui est complètement à côté de la plaque.
Qui ne réagit pas.
Qui, au contraire, est un obstacle. Si je voulais faire quelque chose pour l'aider, c'est elle l'obstacle, c'est pas le petit.
Oui, oui.
Oui, et le petit, quand j'ai dit que j'allais parler de vous, j'allais vous en parler, c'était son espoir, et vraiment. Et puis maintenant, il est complètement désespéré, il s'enferme dans sa chambre, il claque la porte, il veut plus parler avec personne, même avec moi. Il a cassé son téléphone. Non, je crois que ça va très mal, là, très très mal. Et comment faire, je ne sais pas, parce qu'ils ont peur tous les deux. Et j'ai même pensé que peut-être moi aussi, il fallait que je fasse attention. Peut-être, je vis seule.
Attention à quoi ? Attention à cet homme ?
Oui, oui. Parce qu'il il le harcèle sur le téléphone. Il lui envoie tout le temps. Donc, il est capable, par l'informatique, de remonter à plein de choses. Et le petit, il garde tout. Les messages et tout ça. Mais bon, il peut peut-être voir les mails. Il peut peut-être voir les messages. Il fait des photos pour faire avec l'enfant pour dire aux gens que l'enfant
tout va bien.
Est content. Oui. Il est gentil avec tout le monde. Tout le monde le croit. La même histoire qu'hier, hein, vraiment. Et donc, en plus, c'est bizarre, il fait des allers-retours, il a de l'argent, il a des vêtements de marque, il a des parfums, il ne travaille pas. Ouf, moi, je me suis imaginé plein de trucs.
Hein. Oui.
Je me suis même dit qu'il pouvait peut-être aller sur des sites porno avec la photo de son fils, hein, pendant qu'on y est. Maintenant, on peut s'attendre à tout. Hein. Et donc, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être dangereux quand même. Hein. Alors maintenant, si les flics n'écoutent pas, si les avocats n'écoutent pas, si les associations ne téléphonent pas, parce qu'il n'y a personne qui m'a rappelé, hein. Personne, hein.
Personne.
Aucune.
D'accord, ouais, vous avez
personne.
Appelé qui ?
J'ai appelé la voix de l'enfant.
Oui.
Martine Bruce, là. Pas de réponse. J'ai appelé l'Oiseau Bleu. On ne m'a pas rappelé. J'appelle les associations de femmes battues, ou d'enfants battus, ou de mères battues. Il n'y a pas moyen.
Alors ça, vous voyez, c'est inadmissible ce que vous me dites là.
J'ai contacté des grands avocats de Paris. Gentiment, ils m'ont répondu en disant qu'ils étaient débordés.
Oui, les avocats, ça n'est pas la même chose, Karine. C'est,
oui.
Les avocats, il y a une notion de d'argent et de service. Et,
oui.
Mais que ces associations dont vous parlez ne vous aient pas rappelé, c'est très décevant même.
C'est pour ça qu'il est déçu, le petit. Moi aussi, hein, franchement. Hein.
Est-ce que c'est très indiscret de vous demander dans quelle région tout ça se passe ?
C'est dans le centre de la France.
Dans le centre de la France, d'accord.
Pourquoi ?
Et c'est... Non, mais parce que on peut réfléchir par rapport aux personnes qu'on connaît.
Je l'ai dit à Florian, hein, il le sait.
D'accord,
il le sait.
D'accord, très bien.
Parce que là, vraiment, il faut qu'on soit protégé. Hein.
Bien sûr. Mais de toute façon, il est hors de question qu'on révèle quoi que ce soit ici.
Ouais,
sur
voilà.
Cette antenne.
Donc je vous dis, il y a beaucoup de manipulations sur le téléphone, sur Internet, la famille elle s'y met. Non, c'est tous les jours du harcèlement par téléphone. Hein.
Alors la famille s'y met, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire il y a les frères du père. Je sais pas moi, il me parle de toute la famille, je sais pas combien ils sont, mais à tour de rôle, ils s'énervent. Parce qu'il leur dit qu'il ne veut pas en entendre parler, qu'il ne veut pas voir son père, mais on ne tient pas compte de lui. Donc on ne le respecte pas.
Oui, on ne l'écoute pas.
Hein ? Voilà, on ne l'écoute pas. Alors il dit qu'il veut le bonheur, tout simplement. Son père lui a gâché sa vie, 11 ans de sa vie, toute une souffrance. Il ne sait pas pourquoi, voilà, il ne comprend pas.
Bon, de toute façon, un enfant de 12 ans qui... raconte ça et qui n'a pas envie d'aller avec son père, il a tout à fait le droit de ne pas y aller. Moi, je considère, je vais vous dire, qu'un enfant, même si, bien évidemment, il faut lui donner un cadre, mais il faut considérer un enfant comme un être à part entière, vous voyez ? Et que quand on considère ses enfants, tous les enfants, hein, comme des individus à part entière et non la propriété des parents qui les ont faits, hein, qui les ont amenés dans ce monde, eh bien, il faut les écouter. Et c'est tout de même incroyable que personne n'entende la voix de ce gamin.
Personne ne l'écoute. Non. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est en colère et révolté. Il a décidé d'écrire au procureur de la République et qu'il a besoin de personne. Il a été débrouillé tout seul, là. C'est incroyable, hein. Ben, j'ai raconté l'histoire dans ma famille, une gamine de 12 ans qui ne voulait pas rester avec sa mère, qui voulait aller avec son père. parce que c'était beaucoup plus intéressant.
Oui.
On regardait la télé, on s'amusait, on travaillait pas trop pour aller à l'école. Vous voyez, c'est un peu beaucoup plus drôle, ça.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Oui.
Oui, mais la même histoire, 12 ans.
Oui.
Elle veut aller avec son père, elle dit au juge qu'elle veut y aller. Eh bien, elle y est allée. On l'a écoutée.
Oui, et on a eu raison, non?
Je sais pas, là, je prends pas parti. Je sais pas. Est-ce qu'elle a eu raison, elle?
Alors, elle voit toujours sa mère, quand même.
Bah oui, elle voit sa mère, mais sa mère, c'est plus pareil qu'avant, quoi.
Mmh.
C'est plus pareil, hein. Pareil, il y a eu harcèlement et manipulation de la part du père sur le téléphone.
Oui, là, c'est un autre... Oui, j'avais pas vu... Oui, j'ai un peu parlé vite, là, en fait. Si l'un des deux, vous voyez, achète tout, autorise tout, ne met pas de cadre, et que de l'autre côté, on met du cadre, eh bien, bien évidemment, oui. Sur des enfants de cet âge-là, ça peut être très dangereux. Mais, donc, j'ai parlé trop vite, ça n'est pas bien. Pardonnez-moi.
Si vous voulez, ces hommes font de la manipulation sur les téléphones, les enfants, tous les jours. Je t'aime, ma chérie, mon chéri. Voilà, moi je voyais les téléphones, les messages qui arrivaient sur le téléphone de la gamine. C'est insupportable. Mm-hmm. Quoi.
Bon,
c'est
mais
plusieurs fois, c'est
Karine,
la nuit des jours.
Fixons-nous sur Eddy plutôt, parce que il faut qu'on soit plus précis sur le cas de ce petit bonhomme.
Faut le sauver. C'est ou les battu ou les tué. Pour moi, c'est ça. Hein. J'ai dit à la mère, hein, pour mettre les choses, les points sur les i. Hein.
Mais quand vous lui dites ça, en fait, qu'est-ce qu'elle vous dit?
Elle sursaute. Mais elle n'a même pas réagi quand le petit m'a avoué qu'il avait été violé. Elle n'a même pas compris.
Est-ce que...
Alors j'ai dit au petit, tu sais qu'elle n'a pas compris. Il me regarde et me dit, oui, tu as raison, elle n'a pas compris.
Mais c'est tout de même... Enfin, là, vous parlez d'un état qui est pour le moins inquiétant, Karine. Parce que si...
Absolument.
Mais oui.
Absolument.
Là, je vous avoue que je suis un peu...
Elle fait ce qu'il faut. Hein. Elle lui donne à manger, elle s'en occupe, elle lui en parle bien. Mais pour moi, elle est dépressive, c'est sûr. Et ça fait 7 ans quand même.
Mais
hein.
Qu'est-ce qui ferait le bonheur de cet enfant, finalement? C'est qu'il ait l'assurance qu'il peut rester chez sa maman et qu'il ne va plus chez son père. C'est ça, en fait, le problème de cet enfant.
Le problème, c'est qu'il y a une injustice... et qu'il va y avoir un procès déterminant, complètement injuste, et qu'elle risque de partir en prison. Et lui, il ne trouve pas ça normal du tout.
Non, mais alors...
Il a peur de perdre sa mère.
Si enfin, on ne met pas... D'abord, on ne met pas une maman en prison comme ça. Si c'est pour non-présentation d'enfant une fois... c'est pour une fois, vous m'avez dit?
Bah écoutez, exactement, je sais pas, c'est qu'une fois il était malade, il avait 42 fièvres, donc évidemment, elle a pas pu le donner, et une autre fois le père vient pas, quand il doit venir le chercher, et le petit l'attend toute la journée. C'est vraiment insupportable, quoi, tout ce qu'il raconte. C'est pas normal, on peut que s'énerver.
Mmh. Mais vous aurez bien saisi qu'il y a un problème, Karine. C'est que cette maman a la responsabilité de cette situation. Et c'est à elle d'agir. Alors peut-être agir sur vos conseils, que vous la rassuriez, que vous lui disiez qu'il faut qu'elle bouge.
Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que l'autre jour je l'appelle, je lui dis il faut aller à tel endroit, ça me paraît bien. Il faut aller au tribunal de grande instance, c'est beaucoup mieux. Puis j'avais pris un rendez-vous avec une association ou un avocat, elle m'a dit moi aussi je l'ai fait. Donc j'ai dû annuler mon rendez-vous. Mais chaque fois, le dernier avocat, pourquoi il perd aussi? Pourquoi il perd? Je ne comprends pas. Pourquoi elle doit payer cet argent-là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle n'a pas les moyens. Pension d'invalidité, ils sont deux. Ils vivent chichement dans cet appart. Et l'autre, elle s'est mise au chômage, elle gagne bien sa vie. Vive la vie, quoi. De toute façon, c'est la même histoire que ce que j'entendais hier avec Lucie. Tout pour l'argent.
Parce que Eddy a l'air de très bien parler, très bien s'exprimer, avoir de la suite dans les idées. Est-ce qu'il a essayé d'appeler le 119?
Je crois pas.
Enfants sans danger. Vous savez que cette ligne, elle est destinée, et c'est Annick qui, et je la remercie grandement, qui nous rappelle. C'est vrai qu'on oublie qu'il y a une ligne pour les enfants. Et que ce sont des avocats qui répondent et qui se mettent en relation avec ces enfants et qui, s'ils évaluent sur les dires de l'enfant la gravité de la situation, peuvent entendre cet enfant, s'occuper de cet enfant, en tout cas donner suite à tout ça.
Non, je crois pas.
Alors, il va falloir qu'il le fasse.
Mais moi, je ne savais pas, voyez.
Il va falloir
qu'il
le fasse.
Il ne fera plus rien maintenant. Il est en colère contre tout le monde. Il a décidé qu'il se défendait tout seul. Fini. Il ne parle plus à personne. Même moi, il ne veut plus m'entendre.
Mais là, je vais avoir du mal à vous aider, Karine. S'il ne veut plus écouter qui que ce soit, ce garçon.
J'y arriverai si je le vois. Mais pas comme ça.
Mais pourquoi vous n'allez pas... Je ne sais pas, moi, on est... On est mardi aujourd'hui, peut-être demain, vous pouvez passer les voir. C'est mercredi, il n'y a pas école demain après-midi.
J'ai proposé aujourd'hui, pas moyen de discuter avec la maman.
Pourquoi ?
Parce qu'il avait été au conservatoire, il avait mal joué. Le prof disait que c'était nul. À l'école, ça ne va pas non plus. Elle ne veut pas parler de ça. Hier, il ne voulait pas parler de ça non plus. Je ne sais pas, moi. Il s'est passé quelque chose que je ne sais pas. Ou alors l'autre, il est tombé sur le téléphone, ou j'en sais rien, moi.
Vous savez ce que vous pouvez lui proposer, c'est qu'elle nous appelle. C'est que
elle le fera jamais.
Elle le fera jamais.
Non, lui encore. Il aurait pu parler. Il était d'accord. Il attendait avec impatience l'autre jour. Il était prêt. Hein. Mais elle veut que personne sache son histoire. Compliqué. Hein.
Alors écoutez, je vais me renseigner afin de savoir si il peut nous appeler, mais comme c'est un mineur, je ne sais absolument pas s'il a le droit de nous appeler.
Ouais.
C'est une question que je vais poser, mais il faut que sa mère soit près d'elle et qu'il ait l'autorisation de sa maman pour nous appeler. Donc,
Elle ne voudra pas. Bon. Encore la fois dernière, si, c'est tout était bien préparé. J'aurais commencé, il aurait pris la relève, puis ça c'est pas très bien goupillé, quoi, on va dire. Hein. Mmh. Et en plus, ça aurait pas été évident, parce que les voisins, les murs, ils sont quand même très légers. Hein. Donc, c'était pas le bon endroit. Mais c'était bien parti, j'avais bien préparé mon coup. Mais là, il y a eu un changement, je sais pas lequel. Hein.
Bon,
mais
alors,
raison, je vais y aller.
On va réfléchir ensemble. Vous restez encore avec moi, on va...
Oui.
Encore parler quelques minutes après et conclure et essayer de trouver un chemin, un moyen.
Par Internet.
Bon,
par Internet.
Mais on va y réfléchir et puis on se reparle juste après le journal. Vous restez avec moi, Karine.
D'accord.
Et je vous retrouve et puis on va réfléchir parce que là, le temps du journal, je vais pouvoir réfléchir un peu mieux. À tout de suite.
Europe 1. 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 5 minutes et vous êtes toujours sur votre radio, sur Europe 1, et c'est votre libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin. Nous sommes avec Karine qui nous explique la situation d'un enfant de 12 ans dont la maman est extrêmement dépressive, séparée du père de cet enfant depuis 7 ans maintenant, mais qui semble totalement paralysée de peur d'être à nouveau attrapée et violentée par son ex-mari. Mais il y a au milieu cet enfant de 12 ans qui est extrêmement en colère parce qu'il ne veut plus aller chez son père, il ne veut plus entendre parler de son père, qu'il accuse de le violenter, de le manipuler avec une famille qui s'y met. Et ce petit garçon de 12 ans... Bien, visiblement, il est très en colère et ne va pas très bien. Karine, on avait dit qu'on réfléchirait à une solution. On a essayé, nous, de gamberger pendant le journal. Et entre-temps, nous avons eu Marie-Christine qui nous appelle et qui est avocate et qui souhaiterait donc intervenir et donner quelques conseils pour Eddy.
D'accord.
Bonsoir Marie-Christine.
Oui, bonsoir Olivier, bonsoir à l'auditrice. Bonsoir. Écoutez, bonsoir, j'ai été tellement choquée, émue de vous entendre et aussi peut-être pouvoir éclairer un tout petit peu votre lanterne ce soir.
Oui.
Concernant donc le rôle des avocats, j'ai suivi donc récemment une formation justement des avocats de l'enfant.
Oui.
Et il existe, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, il existe des articles et des codes, et notamment la Convention internationale du droit de l'enfant, qui est quand même pas toute jeune puisqu'elle a 30 ans, qu'elle a été adoptée par la France et que depuis 30 ans, nous avons enfin un article dans le code de procédure civile qui permet au juge de l'enfant d'être saisi, non pas simplement à la demande d'un parent, mais à la demande de l'enfant capable de discernement.
D'accord.
Et quand on a 12 ans, on est considéré comme normalement étant capable de discernement. La jurisprudence dit en général c'est 10 ans.
D'accord.
Donc il y a trois solutions. L'enfant en danger peut saisir directement le juge des enfants à sa propre demande par écrit. Un des deux parents, bon, en l'occurrence la maman, ne souhaite pas. Ou toute personne intéressée, c'est-à-dire vous, madame, une personne qui est assistante sociale, une personne qui a connaissance des faits ou qui se pose des questions, le médecin peut lever le secret professionnel s'il constate sur l'enfant des lésions, etc. etc. Et cet enfant, discernant, donc celui-ci a l'air de l'être.
Oui, il a l'air vraiment de l'être, oui.
Puisque voilà, on dit qu'il est mûr, qu'il fait des recherches, vous vous rendez compte qu'il sait qu'il peut écrire au procureur. Donc ça, c'est génial. Et du coup, le gamin est en colère, mais on peut encore peut-être l'aider. Et lorsque le procureur ou un de ses deux parents ou une toute personne intéressée est saisie, à ce moment-là, il est évident que le procureur ne va pas rester sans rien faire, même s'il n'y a pas de plainte de déposer. Et il va demander au bâtonnier, de l'ordre des avocats, de la résidence de la maman, du lieu de résidence de la maman, où je suppose que l'enfant réside également, de désigner un confrère, une consœur, je veux bien spécialiser en matière des enfants, parce que c'est vraiment une spécialité, et ça sera automatiquement au titre de l'aide juridictionnelle.
D'accord, donc ça veut dire que...
Le confrère ou la consœur n'interviendra que si elle est formée ou elle est formée à cet effet pendant 6 mois, et c'est très sérieux.
Oui.
Et si elle accepte évidemment, ce qui est obligatoire, de fonctionner de toute la procédure sur la base de l'aide juridictionnelle, puisqu'un mineur, par définition, ne peut pas être en mesure de vous rémunérer.
D'accord.
Et c'est ce qui fait que l'enfant, sa parole sera entendue hors présence des parents, de la maman, par quelqu'un dont c'est une formation, une vocation, et qui pourra le rassurer, mais sans prendre position, écouter juste la parole, et rapporter cette parole au juge des enfants. D'abord au JAF et puis au juge des enfants qui s'auto-saisira et qui prendra les mesures qui s'imposent. Non pas qu'il y ait conflit d'intérêts entre les parties, c'est-à-dire entre la maman et l'enfant, mais peut-être que si personne ne fait rien, cet enfant va peut-être faire une bêtise.
Il a déjà essayé.
S'il ne se sent pas écouté.
Oui, il a déjà essayé.
Parce qu'en fait, on dit qu'il n'est pas écouté, mais parce qu'il n'y a pas le relais. Il n'y a pas de relais.
Voilà.
Comment dire ? La plainte n'a pas été déposée, donc il ne peut pas y avoir de flagrance ni d'enquête. La maman, visiblement, ne souhaite pas de représailles. Mais cet enfant, il a des droits, il le sait, visiblement, il a regardé sur Internet.
Il le sait, oui.
Et donc,
alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ?
Eh bien, il peut écrire au procureur, comme il dit, lequel aussi peut prendre attache le procureur avec des administrateurs ad hoc, c'est en fait des associations d'aide aux enfants maltraités, qui eux-mêmes demandent aux bâtonniers de désigner un avocat spécialisé ou une avocate en matière du droit des enfants victimes, qui à ce moment-là prend attache avec soit l'association qui est contactée par l'enfant ou directement le procureur, et à ce moment-là essaye bien, parce que bon, évidemment la maman ne doit pas être opposante, de proposer à cet enfant d'être entendu, c'est-à-dire à son propre cabinet, mais hors présence de la maman, qu'elle reste dans la salle d'attente pour que l'enfant ne se sente pas dans un conflit d'intérêts ou de loyauté.
Oui.
Et donc, en fait, Marie-Christine, donc ce que vous voulez dire, c'est qu'éventuellement, Karine pourrait jouer le rôle de cette tierce personne qui aide Eddie à rédiger. Alors, et à saisir le procureur.
Je n'ai pas encore pratiqué la matière, mais je sors de cette formation. Selon l'article 375 du Code civil, il est indiqué que l'enfant en danger peut être parti à la procédure pour le juge des enfants par toute personne intéressée. Donc, il n'est pas précisé que cette personne doit être particulièrement une assistante sociale ou un médecin ou quelqu'un de l'ASE. Ils disent par toute personne intéressée.
Donc, ce qui veut dire, Karine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez être cette personne, visiblement.
Mais il faut que j'aille au tribunal de grande instance.
Non, vous ne vous déplacez pas. Il n'est même pas nécessaire, à la limite, si vous ne voulez pas de représailles, de vous faire connaître. Il suffit d'écrire.
En fait, il faut que cet enfant...
Sans même donner vos coordonnées, mais par contre, donner l'identité de la personne, de l'enfant.
Écrire à
sa
qui
résidence, au procureur. D'accord. De la République, du tribunal judiciaire du ressort dans lequel se passe ou la résidence de l'enfant, lequel lui-même prendra ça au sérieux, si, bref, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le prendre au sérieux, saisira le bâtonnier de l'ordre, toujours pareil, des avocats du barreau du lieu de résidence de l'enfant, lequel désignera au titre de l'AJ, de l'aide juridictionnelle, un confrère ou une consœur dont c'est la spécialité, et qui assistera l'enfant en toute bienveillance, sans demander de rémunération puisque l'enfant ne doit pas payer, tout le long de la procédure.
Ce qui veut dire que qu'Eddie, Karine, c'est ce que vous explique Marie-Christine, c'est que Eddie se retrouvera accompagné et aidé et défendu donc par son avocat à lui.
C'est ça, un avocat de l'enfant spécifique. Et donc, qui rapporte sa parole et qui le représente devant le juge des enfants sans qu'il ait conflit d'intérêt avec la maman, qui elle a bien sûr aussi le droit à avoir son propre conseil. Mais pour que cette parole de l'enfant puisse sortir, parfois il est nécessaire qu'il ait son avocat.
Exactement, pour qu'elle soit valorisée en plus aux yeux du procureur. Je pense que... si cet enfant a son avocat, son propre avocat, le procureur vraiment peut entendre les arguments seuls de l'enfant.
D'autant plus que c'est le procureur qui va demander au bâtonnier de désigner un confrère à l'aide juridictionnelle pour représenter l'enfant devant le juge des enfants, ou devant la police, ou devant qui que ce soit, si vous voulez. Pas directement le procureur, pour pas que ce soit trop impressionnant, et qui recevra l'enfant à son cabinet, accompagné évidemment de la maman, parce que sans ça, il y a quand même l'autorité parentale qui... Et en aucun cas, il est obligé de se rendre à la résidence de son père.
Bien sûr.
Alors, vous voyez, Karine, en fait, je vais vous conseiller quelque chose. Vous restez en ligne aussi, Marie-Christine.
D'accord, je vais vous dire, Karine,
allez-y, demandez à Marie-Christine et je vous dirai ensuite.
Si ça ne vous dérange pas de donner toutes les explications en détail à Olivier, parce que moi, le début, j'ai compris, mais si c'est dans un mois ou deux mois la suite, j'aurai tout oublié. Je ne sais pas comment faire.
Je peux laisser, si vous voulez, sur un message sur le site.
Oui, mais non, en fait, on va vous mettre en relation toutes les deux.
Ah, ok.
Vous allez pouvoir échanger vos adresses mail.
Je veux bien commencer, mais après, je me connais. Si ça part... en longueur et tout, je vais oublier les détails.
Excusez-moi, oui, je suis peut-être trop technique. Oui.
Non, mais en gros, Karine et Marie-Christine, je vais un peu résumer tout ça. Karine, la chose que vous avez à faire, à mon avis, là, comme je sens les choses, c'est que peut-être il faut que vous fassiez écouter à Eddie déjà la conversation que nous avons eue là ce soir et que vous qu'il puisse entendre aussi. Que Marie-Christine, qui est avocate, a appelé parce qu'elle a été aussi touchée par son cas et qu'elle a dit des choses très importantes. C'est qu'elle avait entendu que ce garçon, là, personne ne l'écoutait et que c'était normal qu'il soit en colère et qu'il pouvait, si ça continuait, se faire du mal. Donc, Eddie, s'il écoute cela, déjà, il va se dire « Ah, enfin !» Voilà, là, il y a une dame qui a appelé, qui est avocate. Il y a Karine aussi qui me croit. Donc, comme Marie-Christine vous l'a précisé, Karine, c'est que sans apparaître, vous voyez, sans que votre identité soit révélée à qui que ce soit, il faut qu'Eddie rédige une lettre qu'il va envoyer au procureur. C'est très simple, c'est-à-dire...
Où est-ce que c'est l'adresse?
Alors, l'adresse du tribunal.
Au tribunal judiciaire, voilà c'est ça.
Alors, dans la ville où habite Eddie, C'est-à-dire, voilà, la ville ou la grande ville dont il dépend, vous voyez, il faut qu'il adresse une lettre à monsieur le procureur au tribunal. C'est au tribunal, hein, il adresse du tribunal, c'est ça, Marie-Christine ?
Tribunal judiciaire, donc voilà, nouvelle réforme de la justice dit qu'on dit tribunal judiciaire pour dire tribunal de grande instance ou de correctionnel, on dit tribunal judiciaire du ressort dans lequel se trouve la ville. Ou le village de la résidence de l'enfant. Et si vous voulez l'aider à rédiger, ou quoi, vous pouvez, mais sans faire apparaître vos coordonnées. Et puis il signe, il a 12 ans, il peut écrire. Après, évidemment, lui, il faut qu'il mette un numéro de téléphone où on puisse le joindre. Et il y a une deuxième solution qui est moins directe, qui est indirecte, mais je ne sais pas si le barreau de cette ville le pratique. Mais dans les grandes villes, ça existe. Il y a des permanences gratuites à la maison des avocats. Souvent le mercredi après-midi pour que les enfants justement et leurs parents puissent venir, où il y a des avocats de l'enfant qui donnent des permanences gratuites, c'est-à-dire des consultations gratuites, pour expliquer tout ce que je viens de dire, mais en mieux, parce que voilà, en plus concret, aux enfants discernants et aux parents, en tout cas à un des deux parents en général, pour qu'ils connaissent l'existence de cette possibilité. Ne serait-ce que les informer. Alors comme ça déjà, ils viennent souvent avec un des deux parents, c'est pas forcément les deux parents puisqu'il y a conflit entre les parents. Et puis l'enfant discernant peut dire à sa maman, tiens, finalement j'ai eu un bon feeling avec cet avocat, tout cet avocat. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît m'amener maman la voir, la consulter? Et jamais à aucun moment il paye quoi que ce soit. C'est gratuit, c'est l'aide juridictionnelle, c'est le bâtonnier qui saisit et qui dit que voilà, il y a un mineur qui a le droit, selon la Convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York, etc., article 3, d'être entendu. Ça fait 30 ans que ça existe, mais personne ne le sait, en fait.
C'est très
Moi, j'ai téléphoné à Paris, il y a quelque chose.
À Paris, il est très bien placé, à Paris, hein.
Non, elle m'a dit, la dame à Paris.
Ah, pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris.
Oui, j'avais téléphoné à une association. Elle m'a dit, il faut aller au tribunal de grande instance sans prendre rendez-vous avec l'enfant. Oui. Et on a le droit à rencontrer un avocat. Et c'est gratuit. Et à ce moment-là, tout s'enclenche.
C'est ça. Système, parfois, il y a des... c'est ça, en fait. Ça, on dit on dit le tribunal judiciaire, mais c'est pareil. Il y a des ordres qui sont petits d'avocats, donc ils font des conférences ou des consultations gratuites au palais de justice parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure pour recevoir dans leur maison à eux d'avocats. Et dans les grandes villes, il y a des maisons d'avocats où il y a des salles dédiées à ces conférences gratuites qui souvent sont le mercredi après-midi, ces permanences gratuites, souvent pour les enfants c'est le mercredi après-midi justement parce qu'ils sont disponibles et parfois même quand ils le savent, qu'ils ont 12, 13, 14, 15 ans, ils tirent leur mère ou leur père par la main pour se rendre à ces permanences. D'accord. Et là, vous avez des confrères et des consoeurs qui tiennent ces permanences gratuitement et ensuite, si ça accroche, s'il y a un bon feeling, si on le sent bien, l'enfant peut demander à l'un de ses parents ou à une autorité de l'amener, qui a autorité légale sur lui, un parental ou autre, ou ad hoc, pour ensuite être entendu hors la présence du parent, mais pas loin, de manière confidentielle, sur ce qu'il a à dire ou pas. Et ensuite, en fonction de ça, évidemment, l'avocat et l'enfant qui est parti à la procédure saisit le juge des enfants.
D'accord. Marie-Christine, je vais vous poser une autre question. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est ce qu'avait dit Olivier l'autre jour en France. C'est très rare que les femmes qui ne présentent pas l'enfant...
Excusez-moi, je n'ai pas compris. C'est très rare que...
C'est très rare que les mamans, quand elles ne présentent pas l'enfant au père, elles perdent, qu'elles soient condamnées. Or, la mère, a été condamnée.
Oui, mais j'ai bien écouté. C'est pour ça que j'ai téléphoné. Elle n'a pas présenté l'enfant, donc c'est ce qu'on appelle une non-présentation d'enfant, alors qu'elle n'a pas dénoncé les violences sur l'enfant, ni les abus, et encore moins l'abandon de famille.
Donc, pour aucune raison.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'abandon de famille de la part du père connu, dans la mesure où même si c'est que 60 euros, c'est un abandon de famille de ne pas payer une pension alimentaire, c'est une infraction pénale. Donc, s'il n'y a pas de dépôt de plainte,
et puis
comment
remis à payer après.
Pardon ?
Oui, mais même un mois, ça suffit.
Ah,
même 2 mois.
Oui, c'est ce que je vous disais, Karine, tout à l'heure. Même si c'est 60 euros, le fait qu'il n'ait pas payé cette pension alimentaire le met face à la justice, mais complètement, il est condamnable complètement. Et c'est là,
voilà,
c'est
là où ça cette maman, abandon de famille.
Voilà, voilà. Et c'est là où, c'est, où la maman de Eddie dysfonctionne complètement parce que vous voyez, elle n'utilise aucun outil pour se défendre. Elle subit alors qu'elle a toutes les cartes en main pour au moins protéger Eddie. Déjà avec ça, elle a quelque chose quand même de très efficace.
Donc, parce que la justice et la police ne savent pas, d'une part, qu'il ne paye pas les pensions alimentaires,
ils peuvent pas deviner.
Et d'autre part, qu'il est supposé faire l'objet de sévices et de maltraitance, puisque ce n'est acté nulle part.
Mais oui.
Donc comment voulez-vous qu'il
traite le petit menteur?
Mais non, mais le petit, il va, excusez-moi, je vais parler un peu bizarrement, mais il va péter un câble.
Mais oui.
Le gamin est en train de péter un câble.
Parce que vous vous rendez compte, l'injustice des adultes, alors personne, tout le monde fait semblant de ne pas voir. Je suppose qu'à l'école, ça se sait, ça se voit, ça se sent, les voisins. Et cette maman, bon, elle est dépassée, mais elle n'est pas seule. Il faut qu'elle sache qu'il y a des associations, il y a, comme je vous disais, ces possibilités de même si elle ne le souhaite pas, qu'un tiers intervienne pour que cet enfant soit... Et un avocat, à l'aide juridictionnelle, toujours pareil, hein, ce sont souvent des avocats très dévoués, qui ont vraiment en eux une vocation, une vocation des enfants,
fait,
des
procédures de protection. Elle fait obstruction là depuis deux jours, à vis-à-vis de
qui
moi.
Ça, la maman. Ah oui, ah oui, bah oui. Mais bon, après, je pense qu'Eddie, je ne le connais pas, ce jeune. Hein. Je pense qu'il va le faire, il va saisir le procureur, il va écrire.
Oui.
Si vous l'aidez à le faire, Karine.
Si la maman elle fait obstruction, bah, il suffit que, je sais pas, à l'école, je sais pas, qu'il y ait quelqu'un qui l'aide un petit peu, ou un médecin de famille, un pédiatre, ou n'importe qui voit qu'il a des lésions, ou une assistante sociale, ou même.
Bah, j'avais dit de retourner, l'emmener faire des radios, IRM et tout pour son genou.
Ouais, mais si la maman veut rien faire et qu'elle a peur, qu'elle a peur, il faut savoir que l'enfant il a des droits indépendamment de ses parents.
De toute façon, je vais vous dire, Karine, maintenant que vous nous avez raconté cette histoire, on ne peut pas le laisser comme ça. Hein,
voilà, tout à fait.
Donc, on va prendre votre numéro de téléphone. Vous êtes là-bas sur place déjà. Vous allez nous tenir au courant quand vous allez pouvoir aller le voir et déjà lui faire écouter ce que Marie-Christine vient de dire. Parce que comme il est très, très intelligent, il va vite comprendre son intérêt dans ce que vient de dire Marie-Christine.
Par contre, il regarde beaucoup Internet hein, sur l'ordinateur.
Il aura l'occasion de regarder sur Internet, vous voyez, d'écouter le podcast d'Europe 1.
Je l'ai déjà dit, là.
Parce que sur Europe 1, il va sur le podcast et il clique dessus. Parce que son téléphone marche maintenant, là.
Il le fait sur l'ordinateur.
D'accord, mais là, quand vous dites que vous lui avez dit là, vous venez de lui dire ou vous lui avez dit par texto
Comme hier, j'ai tombé sur le numéro que j'avais et puis je ne l'ai pas eu.
D'accord.
J'ai laissé un message. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai téléphoné à sa mère et je lui ai dit, passe-le-moi, il ne voulait pas le prendre, il criait, il pleurait, il claquait les portes pour s'enfermer. Enfin, oui, il pète un câble, c'est ça. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je t'ai envoyé un petit message hier pour te faire un bisou parce que tu me paraissais énervé hier et tout. Il me dit, je te remercie, boum, il s'en va. Non, il n'a plus de téléphone, il l'a cassé ou il a été puni.
Mmh. Bon.
À mon avis, il a été puni par la maman. Hein. Elle lui a enlevé le téléphone.
En tout cas, la meilleure chose.
La seule chose que vous avez dit, Olivier, et qui est très importante, c'est que, évidemment, ça déclenche ce genre de procédure. Il y a des conséquences.
Oui.
Si l'enfant est en danger et que son parent, en l'occurrence la maman, ne le protège pas. Et du coup, l'enfant mineur...
Je dirais pas de ça.
Non, mais,
pas
non, mais
le
si je veux
pas.
Dire... si elle ne veut pas, si vous voulez, porter plainte pour lui, ni le dénoncer le papa des abus et des violences, il est évident que si quelque chose est entamé en dehors de la volonté de la maman, les associations, ce qu'on appelle administrateurs ad hoc, peut-être désignés à la demande du juge des enfants, dans les intérêts de l'enfant, et pas dans les intérêts d'un des parents, et évidemment, on peut mettre en place une mesure éducative.
Oui, parce que, si vous voulez, ce que vous dit Marie-Christine, Karine, c'est que les choses que cet enfant subit chez son père sont d'une gravité extrême, quand même. Et que si la maman s'avère enfin, continue d'avoir ce même comportement, c'est-à-dire voilà, un enfant qui lui dit qu'il est battu, qu'il est manipulé, qu'on lui hurle dessus, qu'on lui donne des coups, et en plus qu'on lui fait des attouchements sexuels et qu'elle ne réagit pas, on peut considérer qu'elle n'est pas protectrice de cet enfant. Et donc, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut...
Moi, personnellement, je ne vois pas comme ça, parce qu'elle a quand même été voir un avocat encore, hein, là, cette semaine.
Pour elle ou pour son enfant ?
Les deux.
Et il ne l'a pas conseillé dans ce sens-là ?
Ben, je ne comprends pas, la dernière avocate, elle la laisse perdre le procès. Elle doit payer.
Oui, mais attendez, je reviens sur l'affaire qu'elle n'a pas. Quand elle vous dit qu'elle perd son procès, elle a perdu parce qu'elle n'a pas présenté l'enfant, ce qui est une. Effectivement.
Ce qui est une faute.
Une faute, une erreur, même une infraction pénale. Parce qu'elle n'a pas, de l'autre côté, dénoncé l'abandon de famille que constitue le non-paiement des pensions alimentaires et d'autre part, les violences que subit son enfant.
La justice, Karine, ne peut pas deviner. Pas. Ne peut pas
voilà,
deviner ça.
L'enfant, il dénonce quelque chose et elle le dit pas. Donc
mais l'enfant, il dénonce des choses, mais il n'est pas dans le pauvre, il n'est pas dans le bon aiguillage.
Mais
c'est vrai que si la maman est défaillante pour faire ce qu'on est en train de dire, en matière pénale notamment, puisque là, ça relève du pénal quand même, hein, c'est des administrations ad hoc, donc notamment des associations de protection des enfants, qui prennent le relais et qui se substituent pour désigner un avocat ou faire la demande bâtonnée de demander un avocat. Et dans ces cas-là, il est évident que ça peut, éventuellement, c'est là où il faut faire très attention, faire intervenir ensuite à la demande du juge des enfants, des assistants sociaux, enfin les mesures éducatives, pour contrôler un peu pendant six mois comment l'enfant, oui, mais un petit peu juste en amont des placements, pendant six mois, mettre la résidence de l'enfant et de la maman avec des visiteurs sociaux qui viennent pour s'assurer de, je sais pas moi, de l'état de santé de l'enfant, de sa dangerosité,
qu'il va bien,
de son
état
de vulnérabilité. Et c'est sûr qu'après, il faut que la maman joue le jeu, parce que sinon, il est clair qu'il peut y avoir un placement. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut faire. Oui. Il faut faire très attention après à ce qu'on déclenche. Mais si on ne fait rien, on peut se le reprocher toute une vie.
Mm-hmm. On a la culpabilité, c'est vrai.
Ouais. Là, c'est surtout les conséquences sur l'enfant. Quoi, qui...
mm-hmm. Mais puis l'enfant,
il peut se transformer en délinquant un jour, parce que souvent, après, ça donne des enfants très violents.
Oui, en colère. Toujours en colère.
En colère.
Ben oui, ça donne des enfants qui sont en dette avec la société, avec les adultes, et qui font des bêtises. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup, l'une et l'autre.
Vous restez,
vous ne raccrochez pas toutes les deux, parce que Natacha va vous conserver hors antenne, va prendre vos adresses mail respectives, et comme ça, vous allez pouvoir échanger toutes les deux. Karine, d'abord, Christine, je vous remercie mille fois pour ces précieux conseils qui auront servi à Karine ce soir, mais qui, à mon avis, auront servi à tout un tas de parents qui auront pris conscience qu'à un moment, un enfant qui discerne les choses peut aussi saisir un avocat et, comme je vous le disais, Karine, en tant qu'individu à part entière, peut faire valoir ses droits. Voilà. Et c'est très important que Marie-Christine nous ait dit cela pour Eddy, mais aussi pour tous ces enfants qui sont souvent pris en tenaille et dans un conflit de loyauté et qui ne savent pas comment s'en sortir. Karine, donc, vous me tenez au courant aussi, hein, surtout, hein, dans les jours qui viennent. Et puis, surtout, vous ne raccrochez pas. On va vous mettre en rapport toutes les deux. Je vous embrasse toutes les deux et mille merci.
Merci beaucoup. Merci, Marie-Christine.
Merci, au revoir.
Oui, merci, au revoir.